Jacques avec vous.
Tati, préférez-vous les fraises qu'on aimerait faire le Jacques, Jacques avec vous. Jacques, Jacques avec vous.
On aime bien quand il pleut à la Saint-Médard, à l'abri quand ça dégouline. On se tortille les fesses avec art quand la confiture glisse la tartine.
Jacques,
est-ce qu'on aimerait faire le Jacques avec vous?
Petit, préférez-vous les fraises qu'on aimerait faire le Jacques, Jacques avec vous?
Qu'on aimerait faire le Jacques, est-ce qu'on aimerait faire le Jacques avec vous?
Rival, on verrait tout petit faire ce qu'on aimerait faire le Jacques, Jacques avec vous.
Faire le Jacques, faire le Jacques.
Cette chanson, c'est marrant parce que Marinette, elle a mis, c'est elle qui a écrit donc les paroles de cette chanson, et elle a mis presque un an avant d'être contente de ce texte.
Et ça a mis très longtemps, ça a mis plus d'un an entre l'idée et puis la réalisation, parce que je savais que quelque part il y avait une bonne idée, les Jacques, faire le Jacques, la cité, enfin la, comment on appelle ça, la. L'expression faire le Jacques, et puis évidemment Jacques Prévert, Jacques Tati, les frères Jacques. Il y avait aussi dans mon idée Jacques Brel, tout ça. Mais après, ça a commencé à faire beaucoup. Donc j'en ai fait un aussi, un couplet sur Jacques Brel, mais je l'ai enlevé. Et j'ai proposé le texte à Jean-Yves, qui m'a fait une musique. Il était très content de lui, et moi, j'aimais pas du tout. Alors, il était plus content du tout, mais je crois qu'il a compris ce que je voulais. Et il est allé rechercher une musique qu'il avait dans ses doigts, dans son magnétophone, et qui avait été à peu près composée quand j'ai eu l'idée. C'est rigolo. Elle était, mais ça collait pile poil.
On aime bien quand on sort de l'école en chantant Barbara, l'oulie des poètes. Ils disent qu'à Brest, la pluie et le beau temps donnent la parole aux enfants qui s'aiment.
Ce qu'on aimerait faire le Jacques, est-ce qu'on aimerait faire le Jacques avec vous?
Tati, préférez-vous les frères, ce qu'on aimerait faire le Jacques, Jacques avec vous?
Ce qu'on aimerait faire le Jacques, est-ce qu'on aimerait faire le Jacques avec vous?
Rira l'enfer et ton petit frère, ce qu'on aimerait faire le Jacques, Jacques avec vous?
Jacques, est-ce qu'on aimerait faire le Jacques avec vous?
Rira l'envers et ton petit frère, ce qu'on aimerait faire le Jacques, Jacques avec vous?
Est-ce qu'on aimerait faire le Jacques, est-ce qu'on aimerait faire le Jacques avec vous?
Rira l'envers et ton petit frère, ce qu'on aimerait faire le Jacques, Jacques avec vous?
Oui, je la connaissais, oui, mais toujours très émouvante à chaque fois.
Ouais. C'est très émouvant. On pleure à chaque fois.
Oh. Bonsoir. Vous savez, c'est fini.
Non, mais c'est un hommage qui nous touche, qui va droit au cœur.
Est-ce qu'il vous arrive quelquefois, vous, de réécouter vos chansons?
Oh, des fois, oui.
Pas tellement,
non. Non, moi, je les écoute par force un peu, parce que, étant donné qu'on recompose des disques actuellement qui doivent ressortir.
Je n'en ai aucune chez moi. Je donne tout à ma fille, qui les écoute, qui les fait écouter à sa fille et à son petit garçon.
Frère Jacques, la fête continue avec Yves Robert, Jean-Denis Malclès, Hubert Dejex, Fabrice Lucchini, Pierre Etex, Claude Nougaro Emmanuel Hussenot, Marinette Maignan, Jean-Yves Lacombe, Chanson plus bifluorée et Risset Barrier. Équipe de réalisation, Marc Legras, Eliane Millot, Jean-Pierre Collard, Françoise Cordet, Christiane Placet.
Cette émission a été diffusée le 1er janvier 1996 sur France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Mystérieuse, la France, et comment ? Mystérieuse, la France souterraine, peut-être encore plus. Il est vrai que par définition, la lumière ne pénètre pas en sous-sol. Elle n'y pénétrait pas il y a des milliers d'années lorsque des individus nous ressemblant sans doute quelque peu, créaient, dessinaient au fond des cavernes. Oui, des peintures vieilles de 15 à 20 000 ans. La lumière n'y pénètre pas, donc, dans ces grottes. Mais la radio, si. Et la radio se posait de bonnes questions sur les rites magiques, les rites d'envoûtement, les incantations auxquelles se livraient certainement nos très lointains aïeux. Visite de la grotte de Montespan par Jean Quittard, qui rencontrait en 1945 le spéléologue et écrivain Norbert Casteret et s'enfonçait avec lui dans des profondeurs mystérieuses.
Norbert Casteret est le plus intrépide des explorateurs de cavernes. À Saint-Gaudens, où il habite, les habitants parlent de lui comme d'un sorcier et chacun prévoit que cet homme audacieux finira par ne plus revenir un jour des grottes dans lesquelles il s'aventure. J'ai vu Norbert Casteret. C'est un homme plutôt petit dont les yeux malicieux brillent derrière des lunettes. Je lui ai demandé comment lui était venue cette vocation de spéléologue.
Ce qui m'a poussé dans les cavernes, c'est incontestablement la lecture du voyage au centre de la Terre de Jules Verne que j'avais eu étant enfant comme petit.
Et quelle est la grotte qui a été la plus dangereuse à explorer ?
Il est difficile de dire qu'elle a été la plus dangereuse, qu'elle a été l'exploration la plus mouvementée, mais une de celles qui m'ont laissé le souvenir le plus vif, car ça a été ma première découverte importante, c'est l'exploration de la rivière souterraine de Montespan. Dans cette rivière souterraine, j'ai eu le plaisir, du moins le privilège, de découvrir des vestiges préhistoriques de tout premier ordre après m'être livré à une gymnastique un peu spéciale qui consistait à franchir des siphons, c'est-à-dire à s'immerger sous des voûtes elles-mêmes immergées sous l'eau du cours d'eau souterrain. À deux reprises, j'ai dû ainsi plonger sous la roche immergée pour continuer et pour découvrir une caverne de 1500 mètres de long qui traverse de part en part la montagne.
Caverne de Montespan, où après avoir franchi quelques dizaines de mètres sous une voûte qui n'a pas plus de 1 mètre de haut et environ 3 mètres de large, nous arrivons maintenant devant une flaque d'eau roumée. Il y a un virage assez dangereux là, M. Casteret. Qu'est-ce que c'est ? C'est le premier siphon dont vous m'avez parlé.
C'est le vestige de l'ancien siphon, mais il n'y reste pas beaucoup d'eau. Vous voyez, le plafond est bas. Vous voyez la trace, le niveau de l'eau,
oui,
qui arrivait à la voûte. Alors c'est ici qu'il fallait autrefois s'immerger selon le niveau de l'eau, soit jusqu'au-dessus de la tête, soit jusqu'aux épaules. Et aujourd'hui, nous pourrons passer plus facilement, simplement en pataugeant un peu en de l'eau jusqu'aux genoux.
Nous allons franchir cette mare, là.
Oui, nous allons franchir cela, ensuite nous serons dans le lit fossile du ruisseau.
Bon, eh bien, alors allons-y, traversons. Oh, je vais croire, c'est tout. Donc, ah, eh bien, nous voici sortis de la, de la mare maintenant, et puis la voûte s'élève, nous arrivons même dans une sorte de salle, n'est-ce pas? Le plafond a maintenant la voûte, a maintenant 3 ou 4 mètres de haut. C'est assez curieux que l'on passe comme ça d'un paysage tout à fait différent par rapport à celui que nous venons de voir. Comment expliquez-vous ça, M. Pestelot?
Bien, ça, c'est la première salle de la caverne, n'est-ce pas? Les cavernes se caractérisent justement par des changements de décor, de direction et de hauteur des voûtes. Ça, c'est très capricieux, ça tient à la nature de la roche, souvent, ou au travail des eaux souterraines. Ici, l'eau a dû tourbillonner pendant longtemps et il y a eu des écroulements de voûtes. Alors ici, nous avons une véritable nef. Plus tard, nous retrouverons de nouveau la galerie à peu près horizontale avec un plafond de 3 ou 4 mètres de haut.
Très bien. Allons un peu plus loin. Alors, pour voir, je crois, les pièces rares dont on va les faire. Dites-moi, c'est moins commode de marcher ici dedans que même dans un couloir de métro à Paris. Ah, voici quelque chose devant quoi vous vous arrêtez. Ça doit être sans doute une pièce rare. Qu'est-ce que c'est
voilà,
que
ça c'est la première gravure de la caverne. Là, sur cette paroi très accidentée, n'est-ce pas, tout abîmé, oui. Vous voyez une silhouette de cheval. Il y a beaucoup de chevaux gravés à la grotte.
Voyons, attendez.
Et alors, ce cheval est là, n'est-ce pas, sur la paroi, voyez là, la tête, là, n'est-ce pas, l'encolure, avec la crinière, oui. On voit la ligne du dos, oui. La croupe, on voit la ligne du ventre, les pattes ont l'air négligées ou effacées, la tête également est émoussée. Il faut tenir compte que ces gravures sont évidemment très vieilles, puisqu'elles sont à peu près de 15 à 20 000 ans d'ancienneté, et ils ont quelques excuses à être un peu émoussées.
Oui, évidemment. C'est assez extraordinaire que les hommes qui vivaient à cette époque-là aient eu des soucis artistiques aussi caractérisés.
Oui. Mais
qu'est-ce que c'est que cette motte d'argile là, autour de laquelle je vois des petits tessons de porcelaine là, de vaisselle? C'est vous qui avez fait ça sans doute?
Oui, ça c'est une sauvegarde un peu que j'ai ménagée autour de ces vestiges qui ne sont pas très apparents, n'est-ce pas? Mais tout de même, vous allez distinguer. J'ai mis là des morceaux de porcelaine en art de cercle pour entourer ces vestiges de modelage, car nous sommes ici devant une statue modelé en argile représentant un tigre ou un lion des cavernes.
Ah oui, je vois, les pattes de devant là, sont assez, mais on ne voit que le poitrail et le cou, une partie, la tête manque toujours.
Voilà, la tête n'existe pas, mais le poitrail, les épaules et les pattes de devant sont en effet très nettes, et vous pouvez remarquer que le poitrail est criblé de coups de pieux, pieux ou de lance, n'est-ce pas? On s'est livré sur cette statue en argile à des incantations magiques, à des rites d'envoûtement, qui sont bien connus en préhistoire.
Autant
préhistorique. Tout le reste de l'animal s'est effondré sous son propre poids, tout le flanc, n'est-ce pas, et la croupe de l'animal s'est effondrée, malheureusement, peut-être même sous l'action des coups de lance des hommes.
Ce sont les éboulis que l'on voit là, tout à côté.
Oui, ce sont ces grosses mottes, n'est-ce pas, plus ou moins informes, un peu modelées, illustrées, que vous voyez, qui parsèment le sol.
Bon, bien, si vous voulez bien, allons un peu plus loin. Je voudrais tout voir si le câble me permet d'aller jusqu'au bout, car nous avons déjà parcouru au moins 120 mètres dans cette caverne. Nous arrivons devant autre chose.
Là,
voilà. Qu'est-ce que c'est
que
ça?
Oui, alors ici, vous avez la pièce capitale de la caverne. C'est l'ours en argile. L'ours acéphale, un ours en argile qui a été modelé là, dans la, vous voyez, il est couché, il est dans la position du sphinx d'Égypte, vous voyez ses pattes de devant, projetées en avant, on voit même, on a eu le souci de faire paraître les griffes.
Et donc,
là, tenez, là sur le sol, là, avec une lumière un peu frisante, là, vous voyez les griffes.
Parce que, entre deux, monsieur Casteret, vous dites que c'est un ours, mais pour moi, c'est une masse informe d'argile.
Oui, évidemment, ce n'est pas, le galbe n'est pas merveilleux, puis nous sommes mal éclairés aussi avec nos lampes acétylènes, qui sont assez capricieuses aujourd'hui, mais vous pouvez constater tout de même que l'animal a une croupe assez considérable, une croupe très arrondie, c'est tout à fait la croupe de l'ours, son garrot aussi, la bosse caractéristique de l'ours, mais ce qui déroute, c'est que l'animal n'a pas de tête.
Oui.
Il n'a pas de tête et il n'en a jamais eu, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques n'ont pas figuré la tête de l'animal. Non pas qu'ils aient reculé devant la difficulté, mais là aussi nous nous trouvons en présence d'un rite magique. L'ours n'avait pas de tête et à la place de la tête en argile qui aurait dû exister, qui nous semble devoir exister, ils avaient greffé une tête d'ours en chair et en os, et avec la peau aussi, avec même toute la fourrure de l'animal, vraisemblablement. Et la preuve en est qu'en 1923, lorsque j'ai fait cette découverte, bien impressionnante, vous pouvez le croire, là, quand j'étais seul devant, en tête à tête avec cet animal, j'ai trouvé entre les pattes de l'ours un crâne d'ours qui avait anciennement été fiché sur la section du cou qui était patinée, qui était lisse.
Oui, mais dites-moi, M. Casteret, qu'est-ce qui prouve l'authenticité, l'ancienneté, si je puis dire, de cette statue?
Oui, nous nous trouvons là devant des modelages d'argile, n'est-ce pas? Et le doute est permis, je le reconnais, pour un profane, n'est-ce pas? On se demande si ces modelages d'argile, comment ils ont pu se conserver pendant des siècles, des millénaires?
Et la question s'était posée lors de la découverte en 1912 des bisons d'argile de la grotte du Tuc de Doubert, qui avait été découvert par le comte Bégoin et ses fils. Ils avaient découvert là deux bisons en argile, admirablement modelés, bien conservés, si bien conservés que des doutes même s'étaient élevés sur leur authenticité. Et ces doutes-là ont été levés lors de ma découverte de 1923, car ici, notre ours, vous pouvez le constater, n'est-ce pas, là, vous voyez,
oui.
la croupe de l'ours est stalagmitée. Il y a une couche de calcite, une pellicule de calcite qui est venue cuirasser l'animal et qui prouve bien que l'animal n'a pas été modelé aux époques modernes.
C'est ça qui en fait l'authenticité.
C'est ce qui fait l'authenticité. Vous voyez, il sonne quand on le frappe, là. Et vous constatez aussi que l'animal est criblé de coups de flèche, et de coups de lance. Il a servi indubitablement, lui aussi, à des rythmes magiques d'envoûtement, envoûtement de chasse. Il faut imaginer là, n'est-ce pas, le sorcier de la tribu, car c'était toujours le sorcier qui venait faire ses incantations, qui venait avec un petit groupe d'initiés, les meilleurs chasseurs de la tribu, vraisemblablement, venait se livrer à ces rites d'envoûtement sur l'animal, à l'issue desquels on perçait l'animal en effigie, pour le lendemain assurer le succès de la chasse.
De la chasse.
Et c'est là tout le secret de la magie préhistorique.
Très bien, mais dites-moi, nos anciens n'avaient pas beaucoup le goût de la lumière, parce que réellement, pour venir faire leurs incantations et leurs séances, leurs fêtes ici, au fond de ce tunnel, il fallait qu'ils aiment le secret et le mystère.
Ah, évidemment, c'est...
Mais je crois que nous sommes là, alors, devant ce que l'on peut considérer comme l'une des plus vieilles statues du monde.
Ah, elle a été décrétée absolument la plus vieille statue du monde.
Cet ours qui est là.
Cet ours qui est là.
Eh bien, c'est assez impressionnant.
Qui est là et qui est entouré, car nous n'avons pas tout vu. Il y a cette petite salle que nous appelons la salle de l'ours. Il y a d'autres modelages, plus petits, des bas-reliefs plutôt, qui parsèment le sol, certains à l'état de bosse tout à fait informe, et sur d'autres, celui-ci, tenez là.
Oui.
Là, vous voyez, on reconnaît le galbe d'un cheval. Il y avait là aussi des chevaux qui étaient modelés, et ici, nous n'avons pas de blessures, nous n'avons pas d'estafilade, de coups de pieux sur ces animaux, car il s'agissait d'un animal d'abord inoffensif, et puis alors très utile pour l'homme, puisqu'ils en faisaient, c'était le fond de leur nourriture.
C'est ça.
Alors, au contraire, là, il doit y avoir probablement d'autres envoûtements propitiatoires, cela, pour favoriser la reproduction de la race chevaline, tandis que pour les animaux féroces, il y avait un rite de destruction.
Oui, je vois que le cheval était surtout considéré par les anciens. C'était l'animal qui était le plus reproduit.
Ah oui, par leur dessin. Car étant certainement avec le bison, le gibier le plus succulent. Mais on ne mange plus ou peu maintenant de chevaux, mais à l'époque préhistorique, toutes les populations primitives ont un goût prononcé pour le cheval.
Bon, dites-moi, M. Castoret, est-ce que vous n'avez pas trouvé des traces de mains ou des traces de pieds des anciens qui ont habité les cavernes, qui les ont pratiquées, qui... Vous l'avez vu ?
Lorsque j'ai eu le privilège de rentrer le premier en cette caverne, j'ai remarqué en effet des multitudes d'empreintes de pieds nus, peu d'empreintes de mains, mais de pieds nus, sur l'argile. Certaines de ces empreintes étaient même calcifiées, ce qui authentifiait tout à fait leur ancienneté. Malheureusement, à la longue, n'est-ce pas, les visiteurs ont superposé leurs propres traces à ces empreintes-là, et on ne peut plus, à présent, reconnaître celles qui sont anciennes de celles qui sont modernes. Mais il y avait des empreintes de pieds nus.
Et quelle était la dimension de ces pieds par rapport, par exemple, à la pointure actuelle? Pour un homme, disons que la pointure normale, c'est 41,
ah,
pour
oui.
Une femme, c'est 37. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme dimension de
ces pieds? À l'encontre de ce que l'on pourrait croire, n'est-ce pas, de ce que l'on croit communément, lorsqu'on parle d'hommes préhistoriques, on se figure toujours avoir affaire à des géants, et bien loin de là, la race préhistorique, les Magdaléniens chasseurs qui étaient ici dans la région pyrénéenne, étaient de taille tout à fait menue, à en juger du moins par ces empreintes préhistoriques, ces empreintes de pieds, qui sont nettement au-dessous de la moyenne, à tel point que l'on s'est même demandé si ce n'était pas des empreintes de pieds de femmes ou d'adolescents, ce qui correspondrait un peu au rite des sauvages modernes, actuels, n'est-ce pas, qui font leur cérémonie d'initiation vers l'âge de la puberté pour les garçons, dans les cavernes ou dans des lieux tout à fait reculés.
Eh bien, écoutez, monsieur Cassori, je crois que nous sommes arrivés au bout de la caverne. Maintenant, nous allons revenir à notre point de départ, essayer de retrouver notre voiture et notre ingénieur du son, monsieur Pétain, qui est en pleine campagne, lui, en plein soleil. Mais je crois que l'on peut tirer la conclusion de ceci, c'est que les hommes qui vivaient il y a des milliers et des milliers d'années, qui s'abritaient dans cette caverne, eh bien, nous laissent assez de confiance sur la fin du monde, qui n'est pas proche, certainement.
Eh bien, il faut reconnaître, on est obligé de constater que ces hommes, qui nous paraissent dans le temps si reculés, n'est-ce pas, étaient matériellement très en retard sur nous, puisqu'ils n'avaient fait que peu d'inventions, le feu, le langage, évidemment. ils ne connaissaient pas les métaux. Tant qu'ils ne connaissaient pas les métaux, ils étaient voués à rester dans une situation misérable, mais ça n'empêchait pas ça, leur évolution intellectuelle, d'avoir été tout à fait normale et très développée. Et je n'en veux pour preuve, n'est-ce pas, que ces œuvres d'art que l'on trouve au fond des cavernes, elles possédaient vraiment un art animalier tout à fait avancé, remarquable pour l'époque.
Eh bien, je vous remercie. Alors maintenant, essayons de regagner la sortie et de traverser encore une fois ces petites nappes d'eau.
Oui, ils avaient regagné la sortie. C'était « Visite de la grotte de Montespan » par Jean Quittard avec le spéléologue Norbert Casteret. Première diffusion par la radiodiffusion française au cours de l'année 1945. Une émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il y aura quelques animaux variés. Dans les trois nouvelles de Saki choisies par Jacques Martin en 1970 pour l'émission de Patrice Galbeau, Bonne Nouvelle Grand Comédien. Une loutre, une baleine, une grenouille, des moutons, cherchés en vain par un homme, peut-être un peu dérangé. Il y aura aussi des humains, évidemment. Même si ces humains croient peut-être à la réincarnation et se réincarneraient évidemment en animal. Il y a aussi un faux afghan. Les humains sont cocasses ou détestables. Laura, les romanesques, un rien de réalisme. Première diffusion sur France Culture de Bonne Nouvelle Grand Comédien, le 15 septembre 1970, proposé par Jacques Martin.
Je ne vous apprendrai rien, Patrice Galbeau, en vous disant que Saki s'appelait de son vrai nom Hector Monroe et qu'il naquit en 1870 en Birmanie où son père, officier de l'armée des Indes, était en garnison. Après la mort de sa mère, Saki, son frère et sa sœur reviennent en Angleterre chez deux tantes qui les élèvent dans une ambiance austère contre laquelle ils ne pouvaient réagir qu'en s'efforçant de leur jouer mille tours. Hector Monroe choisit Saki, son pseudonyme, dans le Rubaiyat de Marquenian, car il aimait tout particulièrement la poésie persane et les contes orientaux. Engagé dès le début de la guerre de 1914, Saki refuse à plusieurs reprises de devenir officier et il est tué le 13 septembre 1916 près de Beaumont-Hamel. De son époque coloniale, Saki a tiré une nouvelle. Je pense que c'est la meilleure de ce recueil, Laura.
Vous n'êtes vraiment pas mourante, n'est-ce pas ? Interrogea Amanda.
Le docteur m'a donné la permission de vivre jusqu'à mardi, répondit Laura.
Mais nous sommes aujourd'hui samedi, c'est grave, s'exclama Amanda.
Je ne sais pas si c'est grave, mais c'est certainement samedi, dit Laura.
La mort est toujours grave, reprit Amanda. Je n'ai jamais dit que j'allais mourir, je vais sans doute cesser d'être Laura, mais je continuerai à être quelque chose.
Un animal, j'imagine. Vous savez, lorsqu'on n'a pas été très bon dans la vie qu'on a menée, on se réincarne sous une forme inférieure. Et quand on y réfléchit, je n'ai pas été très bonne. J'ai été mesquine, méchante, vindicative, et tout cela lorsque les circonstances semblaient le demander.
Bon, les circonstances ne demandent jamais ce genre de choses, s'empressa de dire Amanda.
Permettez-moi de vous dire, observa Laura, qu'Egbert est une circonstance qui demande justement ce genre de réaction. Vous êtes sa femme, c'est différent. Vous avez juré de l'aimer, de l'honorer et de le supporter, moi pas.
« Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à Egbert, » protesta Amanda.
Oh, c'est sans doute à moi qu'il faut faire des reproches, reconnut Laura tranquillement. Il n'a joué que le rôle de circonstances atténuantes. Par exemple, il a fait toute une histoire l'autre jour quand j'ai emmené les petits colliers de la ferme pour une promenade dans la campagne. Ils ont poursuivi ces jeunes canards et ont fait fuir deux poules qui couvaient, sans compter tous les parterres de fleurs qu'ils ont piétinés. Vous savez, comme il tient à sa volaille et à son jardin. En tout cas, il n'avait pas besoin d'en parler toute la soirée et puis de dire n'en parlons plus, juste au moment où la discussion commençait à m'amuser. C'est là que se situe une de mes mesquines vengeances, ajouta Laura avec un petit ricanement. J'ai lâché toute la famille de canards dans la pantie, aux semences, le lendemain de l'histoire des chiens. Comment avez-vous pu ? S'exclama Amanda. Oh, ça a été très facile, dit Laura. Deux des poules faisaient mine de couver, mais j'ai été très ferme. Et nous qui pensions que c'était un accident. Ben, vous voyez bien, reprit Laura. J'ai de bonnes raisons de supposer que ma prochaine réincarnation va être dans un organisme inférieur. Je vais être un animal quelconque. Tout de même, dans mon genre, je n'ai pas été mauvaise, alors je crois que je peux compter être un animal gentil, une créature élégante, pleine de vie et de gaieté. Une loutre, peut-être. Oh, je ne vous imagine pas en loutre, dit Amanda. Je ne pense pas que vous puissiez m'imaginer en ange non plus, observa Laura. Amanda resta silencieuse, c'était vrai. Pour ma part, reprit Laura, je crois qu'une vie de loutre doit être assez agréable. Du saumon toute l'année, la satisfaction de pouvoir aller chercher les truites dans leur trou sans avoir à attendre des heures qu'elles condescendent à sauter sur la mouche qu'on agite devant elles, une silhouette svelte et élégante. Pensez aux chiens, intervint Amanda. Ça doit être affreux d'être chassé, traqué et finalement tué par la meute. Ça doit être assez drôle, car cela se passe sous le regard de la moitié des voisins et... ce n'est certainement pas pire que cette lente agonie du samedi au mardi. Et puis il faut que je change un peu. Si j'ai été une loutre convenable, je reviendrai peut-être sous une forme humaine. Sans doute quelque chose d'assez primitif. Un petit nègre tout nu, j'imagine. J'aimerais vous voir plus sérieuse, soupira Amanda. Vous devriez vraiment, si vous ne devez vivre que jusqu'à mardi. En fait, Laura mourut le lundi. Cela nous complique vraiment les choses, déplora Amanda auprès de son oncle par alliance, Sir Ludward Kane. J'ai invité un tas de gens à venir jouer au golf et à pêcher, et les rhododendrons sont en pleine floraison. Laura a toujours été très sans gêne, répondit Sir Ludford. Elle est née la semaine du Grand Prix, et alors qu'il y avait dans la maison un ambassadeur qui avait horreur des bébés. Elle avait toujours les idées les plus insensées, renchérit Amanda. Savez-vous, s'il n'y avait pas de cas de folie dans sa famille? De folie, non, je n'en ai jamais entendu parler. Son père habite West Kensington, mais je crois qu'à part cela, il est sain d'esprit. Elle s'imaginait qu'elle allait se réincarner sous la forme d'une loutre, dit Amanda. On rencontre si souvent ces croyances en la réincarnation, même en Occident, dit Sir Lovewort, qu'il est difficile de les mettre sur le compte de la folie. Et Laura a eu dans cette vie un comportement si imprévisible que je n'oserais pas formuler des règles précises sur ce qu'elle pourrait faire dans l'autre monde. Vous croyez vraiment qu'elle aurait pu prendre une forme animale, interrogea Amanda. Car elle était de ces gens qui adoptent volontiers le point de vue de leur dernier interlocuteur. Sur ces entrefaites, Egbert entra, arborant un air consterné que la mort de Laura ne suffisait pas à expliquer. Quatre de mes canards tachetés ont été tués, s'exclama-t-il. Les quatre, justement, qui devaient être envoyés au concours agricole de vendredi. L'un d'eux a été traîné jusqu'au milieu de ce nouveau massif d'œillets qui m'a coûté tant de peine et tant d'argent. Mon plus beau parterre et mes plus beaux spécimens de volailles anéanties. C'est à croire que la sale bête qui a fait cela savait vraiment comment faire le maximum de dégâts dans le minimum de temps. Vous croyez que c'est un renard, fit Amanda. On dirait plutôt un putois, dit Sir Lovewort. Non, dit Egbert. Il y avait des marques de pieds palmés tout autour et nous avons suivi les traces jusqu'au ruisseau en bas du jardin. C'est évidemment une loutre. Amanda jeta un regard furtif à Sir Lovewort. Egbert était trop énervé pour prendre un petit déjeuner et il s'en alla surveiller le renforcement des clôtures autour du poulailler. « Je trouve qu'elle aurait pu au moins attendre l'enterrement, » déclara Amanda d'un ton scandalisé. « C'est son enterrement, vous savez, » dit Sir Lovewort. « C'est un point d'étiquette bien délicat de savoir dans quelle mesure on doit respecter ses propres restes. » Le lendemain, ce mépris des conventions mortuaires alla plus loin encore. Durant l'absence de la famille qui assistait à la cérémonie, les canards tachetés survivants furent massacrés. La ligne de retraite du maraudeur passait par la plupart des parterres de fleurs de la pelouse, mais les fraisiers du potager avaient également souffert. « Je vais lancer les chiens sur cette piste à la première occasion, » déclara Egbert d'un ton farouche. « Il n'en est pas question, vous ne pouvez pas faire une chose pareille !» s'exclama Amanda. « Je veux dire, quel effet cela ferait sitôt après un enterrement dans la maison ?
C'est un cas de force majeure, répliqua Egbert. Quand une loutre se met à agir ainsi, il n'y a pas de fin.
Peut-être qu'elle va aller ailleurs maintenant, qu'il ne reste plus de canards, suggéra Amanda.
À vous entendre, dit Egbert, on croirait que vous voulez protéger cette maudite bête.
Il y a si peu d'eau dans le ruisseau depuis quelque temps, protesta Amanda. Cela me semble peu sportif de chasser un animal qui a si peu de chances d'aller se réfugier ailleurs.
Mais bonté divine, Tana Egbert, il est bien question de sport. Je veux voir cette bête tuée le plus tôt possible.
Même l'opposition d'Amanda s'affaiblit quand, durant le service du dimanche suivant, la loutre s'introduisit dans la maison, dévora la moitié d'un saumon qui se trouvait dans le garde-manger et en répandit les fragments sur le tapis persan du cabinet d'Egbert.
Bientôt, déclara celui-ci, elle sera cachée sous nos lits et viendra nous grignoter le bout des pieds. Et d'après ce qu'Amanda savait de cette loutre-là, cette hypothèse ne lui semblait pas tellement absurde.
La veille au soir du jour fixé pour la chasse, Amanda alla se promener toute seule sur les berges du ruisseau en émettant des bruits qu'on pourrait prendre, espérait-elle, pour des aboiements de chiens. Ceux qui la surprirent dans cet exercice eurent la charité d'imaginer qu'elle s'entraînait pour un numéro d'imitation en vue de la fête du village qui devait avoir lieu prochainement. Ce fut son amie et voisine, Aurora Burrett, qui vint lui donner des nouvelles de la chasse. « Quel dommage que vous ne soyez pas venue. Nous avons passé une excellente journée. Nous l'avons trouvée tout de suite, dans l'étang, juste au bas du jardin. Et... vous l'avez tuée, sans qui Amanda ?»«
Ben, je pense bien. » Une superbe loutre. Votre mari s'est fait vilainement mordre en essayant de l'attraper par la queue. Pauvre bête. Elle était assez pitoyable. Elle avait un regard si humain quand on l'a tuée.
Écoutez, vous allez me trouver idiote, mais savez-vous qui elle me rappelait? Mon Dieu, ma chère, mais qu'est-ce qu'il y a?
Lorsqu'Amanda se fut un peu remise de sa dépression nerveuse, Egbert l'emmena en convalescence dans la vallée du Nil. Le changement de paysage ne tarda pas à lui faire recouvrer la santé et l'équilibre. Elle en vint à considérer à leur juste valeur les escapades d'une loutre aventureuse en quête d'un changement de régime. Le tempérament généralement placide d'Amanda reprit le dessus. Une tempête de cris et de malédictions venait du vestiaire de son mari. Des mots prononcés par lui, mais qui ne faisaient guère partie de son vocabulaire habituel, ne suffirent pas à troubler sa sérénité alors qu'elle faisait sa toilette un soir dans un hôtel du Caire.
« Mais qu'y a-t-il? Que s'est-il passé ? » demanda-t-elle avec une curiosité amusée.
« Cette sale bête a acheté toutes mes chemises propres dans la baignoire. Attends un peu que je l'attrape, espèce de... »«
Quelle sale bête ?» fit Amanda réprimant son envie de rire. Le langage d'Egbert était si peu en rapport avec la rage qu'il semblait éprouver.
« Une sale bête de petit négrillon tout nu !» balbutia Egbert.
Aujourd'hui, Amanda est gravement malade.
Les romanesques. C'était l'automne à Londres, cette saison bénie entre les rigueurs de l'hiver et les mensonges de l'été. Une saison honnête où l'on achète des oignons de tulipes et où l'on s'occupe de se faire inscrire sur une liste électorale, car on croit perpétuellement au printemps et à un changement de gouvernement. Morton Crosby était assis sur un banc dans un coin écarté de Hyde Park, à fumer nonchalamment une cigarette et à observer la lente promenade d'un couple d'oies des neiges, dont le mâle semblait un peu une version albinose de la femelle au plumage roux. Du coin de l'œil, Crosby observait également avec intérêt les déambulations hésitantes d'un promeneur qui était passé et repassé à deux ou trois reprises devant son banc, comme un corbeau méfiant sur le point de se poser près d'une proie probablement comestible. Le personnage finit par jeter l'ancre sur le banc et s'y installa, assez près, pour pouvoir engager la conversation avec son premier occupant. La tenue négligée, la barbe agressivement hérissée, le regard furtif et fuyant du nouveau venu, tout trahissait le parasite professionnel. L'homme prêt à supporter des heures de discours et de rebuffades plutôt que l'aventure d'une demi-journée de travail décent. Pendant quelque temps, le nouveau venu regarda droit devant lui, l'œil fixe et perdu dans le vague, puis il se mit à parler avec le ton insinuant d'un homme qui a à raconter une histoire qui vaut la peine qu'on lui prête l'oreille.
« C'est un monde bien étrange, dit-il. »
Comme cette déclaration demeurait sans réponse, il la modifia pour lui donner la forme interrogative.
« Vous aussi, monsieur, vous trouvez sans doute que c'est un monde bien étrange. »
« En ce qui me concerne, dit Crosby, L'étrangeté s'est quelque peu usée depuis 36 ans. Ah, dit l'homme à la barbe grise, je pourrais vous dire des choses que vous auriez du mal à croire, des choses extraordinaires qui me sont vraiment arrivées. Aujourd'hui, dit Crosby d'un ton décourageant, on ne s'intéresse guère aux choses merveilleuses qui sont vraiment arrivées. Les romanciers professionnels font cela tellement mieux. Tenez, mes voisins me racontent des choses incroyables que leur Aberdeen, leur Épagnol, leur Lévrier ont faites. Ben, je ne les écoute jamais. Par contre, j'ai vu 3 fois le chien des Baskerville. L'homme s'agita d'un air gêné sur son banc, puis il attaqua sur un autre front. « Je présume que vous êtes un chrétien pratiquant, observa-t-il. Je suis un membre éminent, et je crois pouvoir dire influent, de la communauté musulmane de Perse orientale, déclara Crosby, se lançant lui-même en pleine fiction. L'homme à la barbe grise était manifestement déconcerté par ce nouvel obstacle sur lequel venait à choper ses efforts pour engager la conversation. Mais son désarroi ne fut que momentané. De Perse. Je ne vous aurais jamais pris pour un persan, remarqua-t-il d'un ton un peu vexé. Ah, je ne suis pas persan, dit Crosby. Mon père était afghan. Afghan, dit l'autre, réduit pour un moment à un silence déconfit. Puis il se reprit et repartit à l'assaut. Ah, l'Afghanistan. Ah, nous avons eu quelques guerres avec ce pays. Si vous voulez mon avis, au lieu de le combattre, nous aurions pu en apprendre quelque chose. C'est un pays très riche. Je crois qu'il n'y a pas de vraie pauvreté là-bas. Il haussa le ton au mot pauvreté. Crosby vit le piège et évita d'y tomber. Il possède néanmoins un certain nombre de mendiants, aussi doués qu'ingénieux, dit-il. Si je n'avais pas parlé en termes aussi désobligeants des choses merveilleuses qui sont vraiment arrivées, je vous raconterais l'histoire d'Ibrahim et des 11 chameaux chargés de papier buvard, mais j'ai oublié comment cela s'est terminé exactement. Et moi aussi, j'ai eu une vie bien curieuse, dit l'étranger, réfrénant manifestement le désir d'entendre l'histoire d'Ibrahim. Je n'ai pas toujours été comme vous me voyez maintenant. « Oui, nous sommes censés changer complètement tous les 7 ans, » dit Crosby, comme pour expliquer la déclaration de son interlocuteur. « Je veux dire que je n'ai pas toujours été dans une situation toujours aussi pénible qu'à présent, » poursuivit l'étranger avec obstination. « Voilà qui me semble assez grossier, » dit Crosby d'un ton pincé, « étant donné que vous parlez actuellement à un homme qui a la réputation d'être un des plus brillants causeurs de la frontière afghane. « Mais ce n'est pas ce que je veux dire, » protesta aussitôt l'homme à la barbe grise. Votre conversation m'a vraiment intéressé. Je faisais allusion à ma triste situation financière. Vous ne le croirez peut-être pas, mais pour l'instant, je suis absolument sans un sou. Et je ne vois aucune possibilité de me procurer de l'argent dans les jours à venir. Je ne pense pas que vous soyez trouvé vous-même dans une pareille position, ajouta-t-il. Dans la ville de Yom, dit Crosby, qui se trouve dans le sud de l'Afghanistan et qui est ma ville natale, vivait un philosophe chinois qui disait toujours qu'une des 3 grandes bénédictions de l'homme était d'être absolument sans argent. Je ne me souviens plus quelles étaient les 2 autres. « Ah, vraiment ?» dit l'étranger, d'un ton qui ne trahissait aucune vénération pour la mémoire du philosophe. « Et pratiquait-il ce qu'il prêchait ? » ?»« Voilà la véritable épreuve. Il vivait fort heureux, avec très peu d'argent et de modestes ressources, » dit Crosby. Je pense alors qu'il avait des amis qui l'aidaient généreusement chaque fois qu'il était en difficulté, comme je le suis à présent. À Yom, reprit Crosby, il n'est pas nécessaire d'avoir des amis pour trouver assistance. Un citoyen de Yom aiderait tout naturellement un étranger. L'homme semblait maintenant sincèrement intéressé. La conversation avait pris enfin un tour favorable. Et si quelqu'un comme moi, par exemple, aux prises avec des ennuis immérités, demandait à un citoyen de cette ville dont vous parlez de lui prêter de quoi franchir un cap difficile de quelques jours, 5 shillings, ou peut-être un peu plus. Ce prêt lui serait-il facilement consenti? Il y aurait un préliminaire obligatoire, dit Crosby. On l'emmènerait dans un débit de boisson et on lui offrirait une mesure de vin. Puis après quelques minutes de conversation, on mettrait dans sa main la somme demandée en lui souhaitant le bonjour. C'est une façon un peu détournée d'opérer une simple transaction. Mais en Orient, tous les chemins sont détournés. Les yeux de son auditeur étincelaient maintenant. « Ah !» s'exclama-t-il, tandis qu'un léger ricanement perçait sous ses paroles. « J'imagine que vous avez renoncé à toutes ces généreuses coutumes. Depuis que vous avez quitté votre ville, vous ne les pratiquez plus aujourd'hui. » « Quiconque a vécu à Yom, » dit Crosby, avec ferveur, et se rappelle ces vertes collines couvertes d'abricotiers et d'amandiers, l'eau fraîche qui ruisselle comme une caresse des cimes enneigées pour bondir sous les petits ponts de bois. Quiconque n'a pas oublié tout cela et en chérit le souvenir s'en voudrait de jamais renoncer à aucune de ces lois non écrites. Pour moi, elle demeure aussi impérieuse que si je vivais encore dans le séjour béni où s'est écoulée ma jeunesse. Alors si je sollicitais de vous un petit emprunt, commença l'autre en s'approchant plus près et en se demandant jusqu'à quelle somme il pourrait sans risquer aller. Si je vous demandais, mettons, à toute autre époque, certainement, fit Crosby. Mais dans les mois de novembre et de décembre, il est absolument interdit aux gens de notre race de prêter ou d'emprunter, de donner ou de recevoir. On n'en parle même pas volontiers. On considère que cela porte malheur. Nous allons donc, si vous le voulez bien, clore là cette discussion. Mais nous sommes en octobre, s'exclama l'aventurier en voyant Crosby se lever. Il y a encore 8 jours jusqu'à la fin du mois. Le mois de novembre afghan a commencé hier, dit Crosby d'un ton sévère. Et un instant plus tard, il traversait le parc à grands pas, laissant son compagnon d'un moment marmonner tout seul sur le banc. « Je ne crois pas un mot de son histoire, murmura-t-il. C'est un tissu de mensonges du commencement à la fin. Je regrette de ne pas lui avoir dit en face, se faire passer pour un Afghan. » Les grognements et les ricanements qu'il prodigua durant le quart d'heure suivant confirmaient bien la vérité du vieil adage qui dit que nul n'est prophète en son pays. Un rien de réalisme. J'espère que vous êtes venu avec une foule d'idées pour Noël, dit Lady Blunes à son invitée la plus récemment arrivée. Le Noël d'autrefois et le Noël à la mode aujourd'hui sont finis. Je veux cette année quelque chose de vraiment original. Le mois dernier, s'empressa de répondre Blanche Beauville, j'étais chez les Matheson et nous avons eu une excellente idée. Tous les invités choisissaient un personnage dont ils respectaient fidèlement le comportement et à la fin du séjour, chacun devait deviner quel personnage les autres avaient incarné. Celui qui était désigné comme ayant le mieux tenu son rôle remportait un prix. Ça semble amusant, dit Lady Blunes. J'étais Saint-François d'Assise, reprit Blanche. On n'était pas obligé de s'en tenir à son sexe. Alors, je me levais toujours au milieu d'un repas pour lancer à manger aux oiseaux. Vous savez, ce qu'on se rappelle surtout à propos de Saint-François, c'est qu'il aimait les oiseaux. Mais ils étaient tous stupides et ils ont cru que j'étais le vieil homme qui donne à manger aux pigeons dans le jardin des Tuileries. Et puis, le colonel Pentley était le joyeux meunier sur les rives de la Dee. « Mais comment diable faisait-il ? » demanda Bertie Van Tam. « Il riait et dansait du matin jusqu'au soir, » expliqua Blanche, citant la phrase même de la chanson. « Ça devait être affreux pour les autres, » dit Bertie. « Et d'ailleurs, il n'était pas sur les rives de la Dee. On n'avait qu'à l'imaginer, » dit Blanche. « Si vous étiez capable d'imaginer tout cela, vous pouviez aussi bien imaginer des moutons dans un champ sur lequel tombait la pluie et les appeler pour les faire rentrer en criant « Il pleut bergère !»« Bien sûr, c'est facile de tourner cela en ridicule, » dit Blanche d'un ton pincé. « C'était extrêmement intéressant et amusant. La remise du premier prix, toutefois, a été un peu un fiasco. Vous comprenez ? Millie Matheson a dit qu'elle était la déesse de l'abondance. Et comme elle était notre hôtesse, nous sommes tous sentis obligés de dire qu'elle avait mieux tenu son rôle que tout le monde. Sinon, j'aurais dû avoir le prix. « C'est une excellente idée pour une soirée de Noël, » dit Lady Blunes. « Il faut que nous fassions cela ici. » Sir Nicolas ne se montra pas aussi enthousiaste. « Êtes-vous bien sûr, ma chère, que vous avez raison de faire cela ?» dit-il à son épouse lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « C'est peut-être très bien chez les Matheson, et où ils avaient invité des gens rangés d'un certain âge, mais ici, ce ne sera pas du tout pareil. Il y a par exemple la petite Durneau que rien n'arrête, et vous savez comment est Van Tam. Et puis il y a Cyril Scatterley. Il y a des traces de démence du côté paternel et une grand-mère hongroise du côté maternel. » « Je ne vois pas ce que pourraient faire de grave, ces gens-là, » dit Lady Blunes. « C'est l'inconnu qu'il faut redouter, » dit Sir Nicolas. « Si Scatterley se mettait en tête d'incarner la baleine de Jonas, eh bien je préférerais ne pas être là. Bon, nous ne permettrons naturellement aucun personnage biblique. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'a fait de si terrible la baleine de Jonas à part avaler un naufragé. « Ma chère, vous ne savez pas jusqu'où pourrait l'entraîner l'imagination hongroise de Scatterley. » Et ce serait une bien mince satisfaction de lui dire ensuite, Vous vous êtes conduit comme ne l'aurait jamais fait la baleine de Jonas.
Oh, vous êtes un alarmiste, dit Lady Bloons. Je tiens particulièrement à mettre ce projet à exécution. Je suis sûr qu'on en parlera beaucoup.
C'est fort probable, dit Sir Nicolas.
Le dîner ce soir-là ne fut pas particulièrement animé. L'effort que chacun s'imposait pour essayer de représenter un personnage ou pour deviner sur qui s'était porté le choix des autres invités venait mettre un frein à l'ambiance naturellement gaie d'une telle réunion. Chacun accepta avec gratitude la charitable proposition de Rachel Klammerstein qui suggéra une ou deux heures de répit pendant que tout le monde écoutait un peu de piano après le dîner. L'amour de Rachel pour le piano avait sa raison d'être et se concentrait principalement sur des morceaux exécutés par ses enfants chéris Moritz et Augusta, qui, il convient de leur rendre justice, jouaient remarquablement bien. Les Klammerstein étaient à juste titre des invités appréciés à Noël. Ils faisaient de somptueux cadeaux pour Noël et pour le jour de l'an. Et M. Klammerstein avait déjà fait part de son intention d'offrir le prix pour qui incarnerait le mieux le personnage qu'il aurait choisi. Tout le monde avait été ravi de cette nouvelle. Si ça avait été Lady Bloons en tant qu'hôtesse qui avait offert le prix, elle aurait considéré qu'un petit souvenir de 20 ou 25 shillings aurait fait l'affaire, alors que offert par les Klammerstein, le prix représenterait certainement une valeur de plusieurs guinées. La récréation se termina avec le départ de Moritz et d'Augusta qui abandonnèrent le clavier. Blanche Bouville se retira de bonne heure, quittant la pièce dans une série de bons laborieux dont elle espérait qu'on y reconnaîtrait une imitation acceptable de la Pavlova. Vera Durmont, une jeune personne de 16 ans, déclara avec assurance que Blanche voulait représenter la célèbre grenouille sauteuse de Mark Twain, et son diagnostic fut généralement accepté. Un autre invité, qui monta se coucher de bonne heure, fut Waldo Publey, qui réglait sa vie suivant un système minutieux d'horaires et de principes d'hygiène. Waldo était un jeune homme grassouillet et indolent de 27 ans, dont la mère avait décidé dans son enfance qu'il était extrêmement délicat, et qui avait réussi, en le dorlotant et en le gardant sans cesse à la maison, à faire de lui un garçon mou et timoré. 9 heures de sommeil ininterrompu, précédées d'exercices respiratoires compliqués et d'autres rituels hygiéniques, figuraient parmi les règles indispensables que s'imposait Waldo. Et il y avait encore d'innombrables petits détails qu'il exigeait de ceux qui, pour une raison quelconque, devaient se plier à ses volontés. Ainsi, le personnel de toutes les maisons où il lui arrivait de séjourner se voyait remettre solennellement une tailleur spéciale dans laquelle on devait lui servir son thé matinal. Personne n'avait jamais très bien compris comment fonctionnait ce précieux appareil, mais Bertie Van Tam racontait à qui voulait l'entendre que le bec devait être tourné vers le nord pendant que le thé infusait. Cette nuit-là, les 9 heures indispensables furent sévèrement amputées par l'incursion aussi brusque que bruyante dans la chambre de Waldo d'un personnage en pyjama qui fit irruption entre minuit et l'aube. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que vous cherchez ? » demanda Waldo stupéfait en reconnaissant Van Tam qui semblait chercher fiévreusement quelque chose. « Je cherche des moutons, » s'entendit-il répondre. « Des moutons !» s'exclama Waldo. « Oui, des moutons. Vous ne pensez tout de même pas que je cherche des girafes, non ? Mais je ne vois pas pourquoi vous attendriez à en trouver plus que des moutons dans ma chambre, » répliqua Waldo d'un ton furieux. « Je ne veux pas discuter à cette heure-ci, » dit Bertie en se mettant à fouiller précipitamment les tiroirs de la commode, des chemises et du linge volèrent à travers la pièce. « Mais il n'y a pas de moutons ici, je vous le dis, hurla Waldo !»« C'est vous qui le dites !» déclara Bertie en tirant les draps du lit. « Si vous ne dissimulez pas quelque chose, vous ne seriez pas si nerveux. » Waldo était maintenant convaincu que Van Tam était fou allié et il s'efforça de le calmer. « Retournez donc vous coucher gentiment et vous retrouverez vos moutons demain matin. »« C'est ça !» dit Bertie d'un ton maussade. « Sans leur queue. J'aurais l'air fin avec des moutons sans queue. » Et pour mieux souligner son agacement devant cette perspective, il envoya les oreillers de Waldo sur le haut de l'armoire. « Mais pourquoi sans queue ?» demanda Waldo qui claquait des dents de peur et de rage et aussi de froid. « Mon cher garçon, vous n'avez jamais entendu parler de la balade du petit Bo Peep ?» fit Bertie en riant, « c'est mon personnage, le jeu, vous savez, le jeu. Si je ne m'en allais pas chercher mes moutons perdus, personne ne pourrait deviner qui j'incarne. Et maintenant, endormez-vous comme un enfant bien sage, ou bien je vais vous gourmander. Je vous laisse imaginer, écrivit Waldo dans une longue lettre à sa mère, combien j'ai peu dormi cette nuit-là. Et vous savez à quel point ma santé exige 9 heures de sommeil ininterrompu. Par contre, il put consacrer quelques-unes de ses heures de veille à exhaler sa rage contre Bertie Van Tam. Le petit déjeuner à blonds et courts était un repas sans façon, suivant la formule « venez quand cela vous plaira ». Mais les invités étaient censés se retrouver tous au déjeuner. Toutefois, le lendemain du jour où le jeu avait commencé, on remarqua quelques absences notoires. Waldo Publey, par exemple, soignait une migraine, dit-on. On lui avait monté dans sa chambre un copieux petit déjeuner, mais il n'était pas apparu. « Il doit jouer un personnage, » dit Vera Durmont. « Est-ce que ce ne serait pas le malade imaginaire de Molière ?
8 ou 9 listes sortirent de diverses poches et cette suggestion fut dûment notée. « Et où sont les Klammernstein ?» demanda Lady Bloons. « Ils sont d'ordinaire si ponctuels. »« Encore un jeu, sans doute, » dit Bertie Van Tam. « Ils incarnent les 10 tribus perdues. »« Mais ils ne sont que 3. D'ailleurs, ils n'ont pas déjeuné. Personne ne les a vus. » Mais « vous ne les avez pas emmenés en voiture ?» demanda Blanche Bouville en s'adressant à Cyril Stackerley. « Si, je les ai emmenés à Sglobbery Moor, tout de suite après le petit déjeuner. Miss Durmot est venue avec moi. » « Mais je vous ai vu revenir avec Vera, » observa Lady Bloons. « Mais je n'ai pas vu les Klammernstein. Les avez-vous laissés au village ?»« Non, » dit brièvement Stackerley. « Mais où sont-ils ? Où les avez-vous déposés ?»« Nous les avons laissés à Sglobbery Moor, » dit tranquillement Vera.
« À Sglobbery Moor ? Mais c'est à plus de 50 kilomètres. Comment vont-ils revenir ?»«
Nous ne nous sommes pas posé la question, » dit Stackerley. « Nous leur avons demandé de descendre un moment sous prétexte que la voiture était enlisée. Puis nous avons démarré en trombe et nous avons planté là. »
« Mais comment osez-vous faire une chose pareille ? C'est inhumain. Enfin, il neige depuis une heure.
Oh, il doit bien y avoir une ferme ou une chaumière quelque part, s'ils font 2 ou 3 kilomètres à pied.
Mais au nom du ciel, pourquoi avez-vous fait cela ?»«
Vous répondre, » dit Vera, « ce serait dire quel personnage nous incarnons. »«
Est-ce que je ne vous avais pas prévenu ?» dit Sir Nicolas à sa femme d'un ton tragique.
« Cela a quelque chose à voir avec l'histoire d'Espagne. » « Nous voulons bien vous donner cet indice, » dit Stackerley, en se servant joyeusement de salade, tandis que Bertie Van Tam éclatait d'un rire joyeux.
« J'ai trouvé Fernand et Isabelle déportant les Juifs. Oh, quelle charmante idée ! Eh bien, en voilà 2 qui ont certainement gagné le prix. Nous ne trouverons rien de plus futé que ça. »
La soirée de Noël de Lady Bloons fut l'objet de commentaires aussi bien oraux qu'écrits, tels que dans ses rêves les plus fous, elle n'en avait pas imaginé. Les lettres de la mère de Valdo, à elle seule, auraient suffi d'ailleurs à en immortaliser le souvenir.
C'était Bonne Nouvelle Grand Comédien de Patrice Galbeau, réalisation Evelyne Frémy. Jacques Martin lisait 3 nouvelles de Saki, Laura, Les Romanesques, Un rien de réalisme. Les éditions L'Âge d'Homme ont publié une édition intégrale des nouvelles de Saki. Première diffusion de ces Bonnes Nouvelles Grand Comédien le 15 septembre 1970 sur France Culture. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Vous écoutez France Culture.
France Culture. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Hassan Mbechour, Virginie Le Duo. Vous pouvez réécouter et télécharger ces émissions à la page des nuits, sur le site et sur l'application Radio France. Bonne journée à tous, à l'écoute de France Culture.
Culture Monde s'offre un pas de côté littéraire et demande aux écrivains leur part de vérité sur le monde.
Julie Gacon.
Nous recevrons l'écrivaine irakienne Inam Kashashi, dont le dernier roman croise les destins de deux femmes originaires de Bagdad, le romancier palestinien Karim Khatan. L'écrivain grec Makis Malafekas, ses polars pulp racontent crûment une Grèce en crise. Enfin, le franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy pour Le rêve du jaguar.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Embarquement immédiat à bord de l'Orient Express avec l'écrivain Mathias Sénard. Il nous invite à un voyage à travers l'Europe et à destination de l'Orient, au cœur de ce train mythique.
L'Orient, dans le mot Orient Express, c'est le feu sacré des temples du feu que sont les locomotives à vapeur.
L'Orient Express, un rêve d'Europe, un podcast de Mathias Sénard, réalisé par Laure-Hélène Planchet, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture vous propose de redécouvrir cette émission.
La science CQFD, Natacha Triou.
En cette veille de réveillon, on continue notre semaine spéciale fête. Une semaine musique et science. Aujourd'hui, on monte en gamme. Quels sont les liens intimes entre musique et astronomie ? Et si les plans planètes dans leur mouvement produisaient un son. Cette idée de la musique des sphères, qui reflète une harmonie universelle, remonte à Pythagore. Cette conception musicale de l'organisation des astres s'est prolongée jusqu'à Kepler. Avec lui, les planètes ne jouent plus des notes fixes, mais de petites partitions qui se répètent à chaque révolution, à chaque nouvel an. Depuis, on sait que le son ne se propage pas dans le vide et que dans l'espace, personne ne nous entend chanter, mais l'astronomie moderne cherche de nouveau à écouter la mélodie des étoiles. Musique et science, quand l'astrophysique sonne, sonne, sonne. Bonjour Jean-Philippe Huzon.
Bonjour.
Vous êtes cosmologiste et physicien théoricien, directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'Astrophysique.